bienvenue à nouveau pour ceux qui sont là pour la première fois. Ce matin, je voulais vous partager une méditation que j'avais sur le cœur. Et dans le Nouveau Testament, on trouve des passages qui nous parlent de victoire, de la vie de l'Esprit en nous, de ce que nous a acquis Jésus-Christ par son œuvre à la croix. Et puis, on voit aussi d'autres passages qui abordent le thème de la souffrance et des épreuves, souvent de pair avec la gloire à venir qui nous attend, quand Jésus-Christ reviendra. Et souvent, on voit qu'il y a comme là une tension, un tiraillement entre ce qu'on a déjà et ce que l'on n'a pas encore. Et cette tension qu'on a à la lecture, c'est aussi un reflet d'une vraie tension qu'il peut avoir dans nos vies. On a entendu parler de quelque chose de tragique juste à l'instant. En même temps, on sait quel est l'avenir que Dieu nous réserve. Enfin, on vit un peu un entre-deux. Et l'un des passages du Nouveau Testament qui aborde ce sujet et le développe un peu se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 exactement. Après avoir développé au début de son épître, je vous fais un résumé très rapide de Romains, ne vous inquiétez pas, comment l'être humain, quelle que soit son origine, est coupable devant son Créateur qui lui a donné la vie et qui n'a pas honoré un retour, comment ce même Seigneur qui l'a créé rachète celui qui se confie en lui, comment il pourvoit son salut par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Paul, dans le chapitre 8, en vient à parler de l'Esprit, celui qui applique à nos cœurs ce que Jésus-Christ a fait pour nous, celui qui rend subjectif pour nous l'œuvre objective de Jésus-Christ à la croix. Et au milieu de ce chapitre, qui parle de la vie de l'Esprit et des bénédictions qui en découlent, Paul va aussi aborder le thème de la souffrance, des difficultés qui font toujours partie de notre condition actuelle. Ce n'est pas parce que nous appartenons au Seigneur, que nous avons son Esprit, que nous allons pour autant être à l'abri contre les vicissitudes de la vie. Notre vie ne va pas être pour autant un long fleuve tranquille, pour parodier le titre d'un film bien connu. Notre foi ne va pas être une assurance tout risque, nous mettant hors de portée des épreuves et des souffrances. Et je pense qu'on le sait tous. Croire cela, ce serait confondre les temps. Vouloir déjà vivre la condition du croyant dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, alors que nous vivons encore dans l'âge présent de la première création. Ce serait mettre la charrue avant les bœufs, comme le dit l'expression bien connue. Les versets 18 à 30 du chapitre 8 présentent ce thème de l'espérance au milieu des détresses présentes. Quand le Nouveau Testament nous parle de la souffrance, le thème de l'espérance va toujours de pair avec. L'un ne va pas sans l'autre. Et nous allons lire ce passage, versets 18 à 30, mais déjà, les versets précédents, du verset 15 à 17, nous disent ceci. C'est comme une introduction. « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. C'est là qu'on voit les deux qui commencent à se lier. Nous sommes adoptés, l'Esprit nous confirme cela, et nous sommes héritiers. Mais la fin du passage introduit le fait que l'héritage n'est pas encore pleinement perçu. Loin de là. Et qu'avant la gloire, il y aura forcément des souffrances. Les souffrances dans ce passage, comme vient de lire, semblent directement liées à la persécution. Et peut-être que l'on peut se dire que nous sommes que peu concernés par cela, actuellement, dans notre pays. Actuellement, chez nous, le diable n'a pas revêtu un habit de dragon brutal, comme on le voit des fois dans l'Apocalypse, qui est celui qu'on peut voir dans la Bible ou dans les temps de persécution intense, dans l'histoire de l'Église, ou autour de nous, si vous lisez Porte ouverte. Il a plutôt l'aspect chez nous d'un serpent rusé et tentateur, comme dans le jardin d'Éden. Mais il agit quand même. C'est les deux habits du diable. Mais il agit quand même. Mais au-delà de ça, le passage que nous allons lire montre que les souffrances ne sont pas seulement liées à la persécution, mais aussi à nos conditions de vie dans l'âge présent. Elles sont à la fois le propre de tout être humain, et en plus, le chrétien a une particularité, ce qu'il va vouloir vivre, les souffrances présentes, dans la fidélité à son Seigneur. C'est-à-dire, par moment, si vous vous retrouvez dans des conflits relationnels, au travail ou ailleurs, eh bien, le chrétien, le Seigneur, il va lire sa Bible, le Seigneur va lui parler, il va lui parler de pardon, il va lui parler d'essayer d'autant que possible d'être en paix avec tout le monde. Il va lui demander de lui faire confiance et ne pas répondre par une vengeance personnelle. Il se trouve en difficulté dans ses relations, il se trouve en difficulté dans son mariage, il va lui demander de renouveler son amour pour son conjoint. Il se trouve dans un milieu où tout le monde triche et s'en sort bien. Donc à cela, aux souffrances ordinaires, se rajoute ce genre de souffrances qui sont dues à notre désir de marcher avec le Seigneur. Mais évidemment aussi, Paul, inspiré par l'Esprit, va nous montrer que, par contre, le chrétien n'est pas laissé à nous-mêmes, laissé à lui-même pour traverser tout cela, qu'il a l'Esprit avec lui. Lui, il sait aussi que ses souffrances ne sont que passagères. Il a un but, il a une espérance future. Mais même si elles sont passagères, et que nous avons une espérance, et que nous savons que nous sommes accompagnés, nous les traversons quand même. Elles sont bien réelles, et il serait donc sage d'en tenir compte. Nous allons lire Romains, versets 18 à 30. C'est dans la version de Semeur. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la vie qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a ainsi déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est le premier verset de ce passage. Paul nous dit que le temps présent, ou le siècle présent, l'âge présent, ça peut avoir plusieurs noms, c'est-à-dire la condition humaine telle que nous la vivons, est marquée, caractérisée par la souffrance. Il n'y a pas que ça, il y a des joies et des peines, mais c'est la caractéristique qui fait sortir de ce temps présent. Elle fait partie de notre vie. Et la gloire va, c'est du futur proche, se révéler en nous. Et Paul, qui comme nous vit dans le siècle présent, et dont on sait qu'il a expérimenté la souffrance, estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance présente, les souffrances présentes et la gloire à venir. Et Paul a aussi goûté, plus que nous tous, je pense, la gloire à venir. Dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, il nous dit qu'il a été enlevé jusqu'au troisième ciel, au paradis, et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. On sait aussi que ce même Paul a eu une révélation de Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Mais quand Paul compare les souffrances présentes à la gloire à venir, il dit qu'il n'y a pas de commune mesure. En fait, il les compare en disant qu'elles sont incomparables. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. La gloire à venir va surpasser d'une manière inimaginable, indicible, toutes les souffrances du temps présent. Elles seront complètement englouties. Je pense que quand on va arriver avec le Seigneur, et qu'il y aura toutes les bénédictions qui vont avec sa présence et tout, finalement, on pourra se retourner. On ne peut pas encore le dire maintenant, mais ça éclaire notre présent. On pourra se retourner et dire, ça valait le coup, mais plus que ça, c'est incroyable. C'est un peu ça qu'est en train de dire Paul. Il ne cherche pas à minorer nos souffrances, hein, à les négliger. D'ailleurs, il ne les lit pas. Il cherche plutôt à nous faire saisir l'incroyable, la merveilleuse espérance qui est la nôtre, à détourner nos regards vers l'espérance future, la gloire que Dieu nous promet. Et cette gloire, dans la suite du passage, on voit qu'elle ne concerne pas seulement nous en tant qu'êtres humains, mais toute la création, tout l'univers. Quand on voit du passage 19 à 22, il est question de la création qui est comme personnifiée et qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la gloire qui va se révéler à nous quand Jésus-Christ reviendra. Et la création qui gémit, qui soupire, selon la traduction, après sa délivrance, sa glorification. Pourquoi ? Parce qu'elle a été réduite à une condition bien dérisoire dans la version de Semeur. D'autres Semeurs ont soumis à la vanité, au pouvoir de la fragilité, à l'inconsistance, selon les traductions. Hein. Cela fait écho à plusieurs choses. Ça fait écho au passage de la chute après la désobéissance à la Genèse, quand le serpent, l'homme et la femme se retrouvent devant Dieu, et où finalement, du fait de la chute, la condition, la vocation de l'homme et de la femme vont être... ne seront plus ce qu'elles seront. Quoi. La femme va enfanter de la douleur, l'homme va travailler la sueur de son front et des ronces vont pousser de la terre. Et ça fait aussi allusion à un autre passage dans l'Ancien Testament qui est dans l'Ecclésiaste, au début de l'Ecclésiaste, quand il est dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Et en fait, le mot grec employé par Paul, qui est traduit par « vanité, condition dérisoire, ou pouvoir de la fragilité » dans Romains 8, c'est exactement le même que celui de la version grecque de l'Ecclésiaste, dans le verset « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est exactement le même mot que Paul a repris. Les savants hébreux avaient traduit, on appelle ça la Septante, la Bible en grec pour les Juifs qui étaient dispersés dans l'Empire gréco-romain, parce qu'ils comprenaient mieux des fois le grec que l'hébreu. Et quand Paul, qui écrit en grec, reprend, il veut qualifier la création actuelle, il reprend ce même verset qui est dans l'Ecclésiaste. Et un commentateur a dit que le livre de l'Ecclésiaste au complet est un commentaire de ce verset. La création a été réduite à une condition bien dérisoire, soumise à la vanité. Et comme le constate l'Ecclésiaste, nous vivons dans un monde où ça ne tourne pas rond. Et même si nous mettons tout notre cœur à l'ouvrage, même si comme l'Ecclésiaste nous cherchons la sagesse, nous constatons que beaucoup de choses nous échappent. Le malheur peut nous frapper sans que l'on comprenne pourquoi. Nous pouvons observer des injustices sociales. On met notre espoir dans la politique, on va être déçu. J'ai un ami qui m'a témoigné de ça l'autre jour. Il s'était engagé en politique et pour bout de 2-3 ans, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup d'attentes et il a eu des grosses déceptions. Les richesses, tout va nous décevoir. Je me rappelle quelque chose qui m'a frappé. Je crois que j'avais 16-17 ans quand Dalida est morte. Je n'étais pas un fan de Dalida, mais je me retrouve ce jour-là au Tabac Presse le matin. Et puis il y avait 3-4 personnes et c'était l'actualité du matin. Dalida est morte. Et puis en fait, ce qui m'a un peu choqué et étonné, peut-être parce que j'avais eu la grâce, même si je me suis converti un peu plus tard, de grandir dans un foyer chrétien où l'argent n'avait pas la première place, les gens disaient, eh ben dis donc, moi si j'avais eu cet argent, je ne me serais pas suicidé. Ils étaient tous en train de dire ça, il y en avait 3 ou 4. Et en tant que jeune, surtout quand on est 16-17 ans, on a un côté un peu idéaliste et qui est bon. On sait que l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, moi, je croyais ça déjà. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, dans ma tête, les gens pensaient que eux, s'ils avaient été riches, eux, ils auraient été heureux. Pas comme Dalida. Mais Dalida, qui était riche, savait que l'argent ne l'avait pas rendu heureux. Ouais, c'est toujours comme ça. Et puis, finalement, quoi qu'on cherche, à la fin, comme dit l'Ecclésiaste, la mort va tout gâcher, si on ne regarde que le temps présent. Il y a un autre truc dans ce style qui m'avait frappé. Pareil, encore une mort, c'était la mort d'Ayrton Senna. Là, j'étais jeune chrétien, je savais qu'Ayrton Senna allait mourir un jour. Mais pour moi, Ayrton Senna, c'était un pilote incroyable. Je le regardais, il doublait tout le monde, tout ça. Et puis un jour, je lis dans le journal, j'étais au Canada à l'époque, Ayrton Senna est mort. J'étais là, waouh. C'était comme si un mythe de toute puissance de ce pilote dans sa voiture s'écroulait. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu ? Évidemment qu'Ayrton Senna allait, mais pas dans une voiture, il ne pouvait pas mourir comme ça. On ne maîtrise pas les circonstances de nos vies. On n'a pas maîtrisé l'endroit où on est né, notre famille, notre époque, notre pays. Ouais. Naître en Afghanistan ou naître ici, ou naître au Moyen-Âge, ou naître maintenant, on n'aura pas les mêmes conditions de vie. Tout ça, on ne le maîtrise pas. Et puis, j'ai parlé des injustices sociales, mais si l'on est honnête et que l'on regarde en soi-même, l'injustice, elle est aussi bien souvent tapie dans notre propre cœur. On connaît tous l'histoire de la paille et de la poutre. Et on parle des injustices sociales, mais la société, elle est composée de qui ? Eh bien, des gens qui la composent. Souvent, le cœur, le mal, il naît dans notre cœur, et puis c'est un côté des fois pratique de dire « c'est la société voilà. ». Cabrel dit dans une de ses chansons « sale temps pour la planète ». Puis après, il décrit tout ce qui ne tourne pas rond. Mais Romains 8 nous dit que la création sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Ce ne sera pas toujours comme ça. Ce n'est pas un cycle sans fin. Il y a un but. C'est Dieu qui déroule l'histoire. Il y a un but à la fin. L'apôtre Pierre, lui, nous dit en 2 Pierre 3,13 que nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. En attendant, la création soupire ou gémit, selon la traduction, mais ces gémissements ne sont pas désespérés, au contraire, ce sont des gémissements d'espérance, car elle sait que la délivrance lui a été promise. Ce ne sont pas des souffrances stériles, à la fin, elle sera renouvelée lorsque Jésus-Christ reviendra. Et ce sera cette même création qui sera rachetée, celle qui a été soumise à la vanité, au pouvoir de la fragilité suite au péché d'Adam. Elle sera rachetée et glorifiée au retour en gloire de son Créateur. Ce que Dieu a créé, il ne le renie pas, mais le rachète. C'est valable pour nous, cela l'est aussi pour toute la création, pour tout l'univers. Et cela veut dire que, présentement, lorsque nous participons ou agissons afin de prendre soin de la création, que ce soit d'un point de vue écologique, prendre soin de la nature, ou d'un point de vue social, participer à atténuer, à réparer, ne serait-ce qu'en partie, la misère du monde, l'injustice, la pauvreté, soigner les gens, enseigner, évidemment évangéliser encore plus, là c'est clair, mais même le reste, déjà, nous allons dans le même sens que Dieu, nous donnons un avant-goût de son œuvre de restauration, du jour du grand rétablissement. Ce n'est pas stérile, nos œuvres nous suivront, nous allons dans le même sens que le Seigneur. Mais nous savons aussi que le renouvellement parfait de toutes choses adviendra quand ? À son retour. Et cela nous garde, nous préserve à la fois du découragement ou d'illusion. C'est Jésus-Christ le Sauveur, ce n'est pas nous. C'est lui que nous attendons. Mais en attendant, nous vivons dans l'espérance, une espérance agissante, car le but final peut déjà impacter ce que nous vivons dans le présent. L'agir de Dieu, son caractère de rédemption, infuse en nous par le Saint-Esprit et nous motive. Et cette rédemption, elle va concerner tous les désordres physiques, nature, écologie, et aussi ceux de l'ordre social, de la justice et de la paix. Le salut de Dieu ne laissera rien de côté. Et en passant, des fois, les deux sont liés aussi, injustice sociale et destruction de la planète. Pourquoi la planète est abîmée, des fois ? Parce qu'on surconsomme, parce qu'on est égoïste, parce qu'il y a des guerres. Par exemple, si vous lisez Le Seigneur des Anneaux, ou si vous avez vu toutes les descriptions du Mordor, où Tolkien décrit une terre ravagée, complètement abîmée, un royaume où il n'y a que guerre et destruction, et où même la nature en a été détruite, et bien Tolkien s'est tout simplement inspiré des paysages de la baie de Somme quand il faisait la Première Guerre mondiale. Ça l'a tellement choqué qu'il a retranscrit ça, c'est des témoignages des lettres qui le disent, il s'en est servi pour décrire le Mordor. Et puis, il y a le verset 23, je vais relire, qui sert de transition entre la création dans son ensemble et nous, et nous introduit au deuxième gémissement ou soupir, le nôtre. C'est le verset 23. Elle n'est pas seule, en parlant de la création, à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Au gémissement de la création s'ajoute le nôtre, et les deux gémissements sont liés. La création a subi les conséquences de la chute, et nous aussi. Et même si nous avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous sommes, nous aussi, comme la création, dans l'attente de notre délivrance finale. Second 21, il traduit ainsi, « Mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la libération de notre corps. Pourtant, nous avons l'esprit, mais on attend encore plus. Peut-être que c'est même que cet avant-goût de l'esprit nous donne envie de plus. Nous avons goûté que le Seigneur est bon et nous aspirons à sa pleine présence dans des nouveaux cieux et nouvelles terres, dans des corps ressuscités, glorifiés, incorruptibles, animés par l'esprit. Nous sommes sauvés, mais en espérance. Nous n'avons pas encore accès à la totalité de notre salut, loin de là. Vous vous rappelez au début des premiers versets que j'avais lus, nous sommes héritiers. Mais là, il dit, nous attendons notre plein héritage. C'est juste après. Non, voilà, nous attendons afin d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptés de Dieu quand notre corps sera délivré. Nous sommes héritiers, mais nous attendons notre plein héritage. Et Paul lui-même s'inclut dans ce gémissement, dans ce soupir. Nous aussi, nous gémissons. Paul gémit. Pourquoi je souligne que Paul gémit ? Parce qu'on peut se dire, mais Paul, il est consacré. Et c'est vrai qu'il est consacré. Il a dû vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. C'est vrai. Il a eu des révélations incroyables. Mais Paul, il dit, il attend mieux. Cet avant-goût qu'il a eu lui donne envie de plus. Il se dit sauvé en espérance. Il attend la libération de son corps. Nous ne voyons pas. Donc, ce n'est pas par la vue, mais par la foi dans les promesses de Dieu. Dans la foi dans le retour de Jésus-Christ qui transforme toutes choses. Mais nous espérons, nous attendons avec persévérance. Notre espérance nourrit notre attente et notre persévérance. Et dans l'épître aux Corinthiens, dans une autre épître, dans l'épître aux Corinthiens, en Corinthiens 8, le même Paul reprend avec ironie certains membres de l'église de Corinthe qui se pensent déjà dans la gloire, qui n'attendent pas la résurrection du corps. Regardez, écoutez, 1 Corinthiens 4, 8. Dès à présent, vous êtes rassasiés, déjà vous voilà riches, vous avez commencé à régner sans nous, comme je voudrais que vous soyez en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. Donc Paul reprend ce qu'il pense qu'il n'y a rien d'autre à attendre, que juste être rempli de l'esprit, ça suffit. Il y a une part d'insatisfaction, entre guillemets, d'attente pleine d'espérance qui est normale dans la vie présente. Nous avons goûté que le Seigneur est bon et nous voulons plus. C'est un peu pareil, on peut comparer ça un petit peu à une relation amoureuse. C'est parce que le fiancé aime sa fiancée et développe une relation amoureuse avec elle qu'il attend avec hâte le mariage. C'est pareil dans toutes les relations. Si vous avez un ami proche, vous êtes séparé longtemps de lui, vous avez hâte de le revoir à un moment. Vous êtes séparé géographiquement, il est parti à l'étranger, c'était votre meilleur ami, pareil. Dans une famille, pareil. Des fois, dans les familles, il y a des séparations géographiques, on a hâte de se retrouver. On a hâte de retrouver ce qu'on aime. Et c'est pareil avec le Seigneur. Et puis même si nous avons les prémices de l'esprit présentement, qui sont évidemment une bénédiction, nos corps, eux, nous rappellent de plus en plus en prenant de l'âge qu'ils appartiennent à la création actuelle et pas à la nouvelle création. Et quoi que nous fassions, à la fin, nous allons mourir et après ressusciter. Et si nous étions dans la génération où le Seigneur revenait et nous transformait instantanément, eh bien nos corps actuels, ce ne serait pas cela qui hériterait la gloire à venir. Soit nous allons mourir et ressusciter, soit nous allons être transformés par le Seigneur. Mais nous espérons autre chose que nos corps actuels, même si ce sont un don de Dieu. Lorsque le Seigneur accorde une guérison, c'est un avant-goût de ce qu'il réalisera pleinement lors de la résurrection. Toute guérison est un avant-goût de la résurrection. Mais la pleine et vraie restauration aura lieu lorsque le Seigneur renouvellera toutes choses et délivrera notre corps de sa condition actuelle misérable pour le rendre glorieux et incorruptible, à l'image de celui de Jésus-Christ. Lazare, quand il est ressuscité en Jean 11, c'était un avant-goût de la gloire de Dieu. Il est revenu à la vie, mais quelques années après, Lazare est à nouveau mort, comme tout le monde. Seul Jésus est ressuscité avec un corps appartenant à la nouvelle création, et c'est cela qui attend tous ceux qui se sont confiés en lui. Écoutons ce qu'il est dit des nouveaux cieux et de la nouvelle terre en Apocalypse 21, versets 3 et 4. Voici l'attente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu, avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. L'autre foi de ce verset, c'est notre condition actuelle, notre siècle présent, notre aujourd'hui à nous. Nous vivons encore dans les larmes. La mort est présente et le deuil qui va avec. Il y a des plaintes qui sont normales, légitimes, et de la souffrance en attendant que lui, c'est en lui que nous espérons, essuie toutes larmes de nos yeux et renouvelle toutes choses. En attendant ce renouvellement, la création et nous-mêmes, nous gémissons, nous soupirons, mais d'un gémissement rempli d'espérance. Et la suite du passage nous révèle qu'un troisième soupir ou gémissement s'ajoute à celui de la création et au nôtre. C'est celui de l'Esprit qui vient suppléer à notre faiblesse dans nos prières. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Dans notre faiblesse, hein, il intercède dans notre faiblesse. Paul reconnaît qu'il est faible, qu'il est limité, que devant certaines situations, il est désemparé, il ne sait pas comment prier. Nous ne savons pas comment prier. Paul s'associe à cela. Je peux me reconnaître faible devant Dieu. C'est même une marque de réalisme et d'humilité de se reconnaître faible devant Dieu et de ne pas savoir comment prier des fois. C'est Jésus-Christ qui a tout accompli. Ce n'est pas moi. C'est lui qui me sauve. Je n'ai pas la lourde tâche de me sauver moi-même. Et dans ma vie, je peux compter sur l'assistance de l'Esprit qui, au milieu de notre prière, sur-intercède de manière inexprimable et selon la volonté de Dieu. Que ce soit dans ma vie personnelle ou en tant qu'Église, parce que tous les passages là en nous, nous espérons, nous persévérons, nous ne savons pas comment prier, excusez-moi, nous rappellent l'aspect communautaire du salut de Dieu. Ça nous touche à la fois nous, ça nous touche en tant que communauté. Des individus qui font peuple dans une création renouvelée. C'est cela le salut de Dieu. L'Esprit intercède selon la volonté de Dieu pour les membres du peuple saint dont nous sommes. Voilà comment elle finit le verset 27. Et les versets suivants, 28 à 30, déroulent le plan parfait et certain de Dieu pour son peuple, pour ses rachetés. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Certaines traductions ont « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais les choses ne concourent pas d'elles-mêmes au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein. C'est par l'agir de Dieu, par son action qu'elles y concourent. Et certains traduisent même par « l'Esprit fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu », faisant le lien avec le verset précédent et l'intercession de l'Esprit en accord avec la volonté de Dieu pour les membres du peuple saint. Jeune chrétien, je pensais en lisant ce verset, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, que cela signifiait que Dieu allait toujours tout arranger dans ma vie, c'est ce que je pensais, hein, et que toutes les circonstances négatives ou difficiles allaient finalement tourner en ma faveur. Donc le bien que toutes choses concourent au bien de ceux qu'aime Dieu, c'était mon confort. Mais, outre que les faits et l'expérience ont rapidement ébranlé cette fausse croyance, dans sa grâce, Dieu m'a enseigné que le bien principal qui visait pour moi, ce n'était pas mon confort, mais c'était de devenir conforme à l'image de Jésus. C'était pas pareil des fois. Entre autres, petite parenthèse, il y a un livre qui en parle très bien, je trouve, c'est « Le problème de la souffrance de Lewis ». Il développe ça sur Romains 8, 28, c'est très bon. Ouais, c'est ça qui m'a éclairé. Relisons ces versets. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. C'est cela le but de Dieu, cela à quoi nous sommes destinés, à devenir conformes à l'image de Jésus. Le but de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de Jésus, de former son caractère en nous. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va le faire parfaitement. C'est ce qu'écrit l'apôtre Paul au verset suivant. Il y a tout un enchaînement qui décrit les étapes du salut. et ce que Dieu a prévu de toute éternité, quand il dit ce qu'il a destiné d'avance, c'est ce qu'il a prévu de toute éternité, il a mis en œuvre dans le présent. Il les a appelés et les a déclarés justes. Et il va le mener jusqu'au bout. Il leur a aussi donné sa gloire. Dans certaines versions, il les a aussi glorifiés. En fait, Dieu est en train de parler au passé de quelque chose de futur. Mais c'est tellement sûr dans la pensée de Dieu et dans ce qui va dérouler que, inspiré par l'Esprit de Dieu, Paul parle au passé de la réalité future de notre glorification. C'est incroyable, hein ? C'est un salut sûr et certain. Et ce que Dieu a finalement prévu pour son peuple, ben il travaille dès maintenant à le faire en nous, en commençant à nous transformer ici-bas, par le travail de son esprit, qui utilise toutes choses pour cela. Les choses qui nous paraissent bonnes et les choses qui nous semblent difficiles et qu'on n'a pas envie de traverser des fois. Dieu, dans sa souveraineté, fait concourir toutes choses à notre bien, c'est-à-dire notre transformation à l'image de son Fils. Nous avons eu des illustrations dans la Bible, des histoires qui illustrent très bien ça. Par exemple, les frères de Joseph l'ont vendu en esclavage. Vous vous rappelez cette histoire, quand ils vendent leur frère en esclavage, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères de Joseph ? Ils ont pensé du mal envers Joseph. Ils l'ont haï, ils l'ont vendu en esclavage. Dieu lui a pensé du bien et s'est servi de ce mal pour à la fin sauver son peuple. Si Joseph n'avait pas été amené en Égypte, Israël n'aurait peut-être pas échappé à la famine. Et avec tout le plan du salut qui se déroule après. La méchanceté et la haine des frères de Joseph ne sont pas justifiées pour autant. Hein. Le mal reste mal, il est injustifiable, il peut être pardonnable, mais pas justifiable. Et ce n'est pas Dieu qui commet le mal dans cette histoire, mais dans sa souveraineté, il utilise les choix libres et responsables des frères de Joseph pour sauver son peuple. L'autre histoire principale qui illustre ça, c'est la mort de Jésus sur la croix. Ouais. La crucifixion de Jésus, c'est quoi ? C'est le crime le plus odieux qui ait jamais existé. Le seul être innocent qui vient pour nous sauver et qui est crucifié et mis à mort par ceux qui viennent sauver. On pourrait dire que c'est le plus grand péché. Mais et parmi ceux qui ont demandé sa mort sont coupables du plus grand des crimes. Mais Dieu va se servir de cela pour accomplir son salut. En même temps, ceux qui ont commis ça auront besoin du pardon. Peut-être et sûrement que parmi les gens qui sont retrouvés à la Pentecôte, quand Pierre leur a montré dans sa prédication que Jésus était le Messie et qu'ils ont été convaincus par le Saint-Esprit, comment ils répondent ? Frères, que devons-nous faire ? Il y en a peut-être certains qui se disent wow, « Waouh, moi j'étais là il y a quelques jours en demandant la mort de Jésus et je me rends compte que c'est le Messie. » Qu'est-ce que Pierre leur annonce ? « Croyez, vous serez pardonnés. » Les mêmes personnes qui ont peut-être participé à la crucifixion de Jésus vont être sauvées. C'est quand même, ça semble incroyable. À la fin, je suis sûr que nous verrons que tout ce qui avait été imaginé en mal contre le peuple de Dieu, le Seigneur l'aura utilisé pour son projet de salut. Il les a aussi glorifiés. Actuellement, nous le voyons parfois dans le temps présent, mais parfois pas. Mais par contre, dans le temps présent, c'est le temps de la foi. On ne voit pas, mais on fait confiance. La souffrance ou l'épreuve, en tant que telle, ne produit pas la foi. En tant que telle, la souffrance n'est pas quelque chose que Dieu a voulu à l'origine. Et au renouvellement de toute chose n'aura plus sa place dans la bonne création de Dieu. C'est quelque chose de momentané qui n'était pas voulu au départ. Mais même si elle ne produit pas la foi, elle peut être par contre l'occasion de se tourner vers le Seigneur, de lui faire plus confiance, de vivre par la foi. Elle n'en est pas la cause, mais elle en est une occasion. Sachant qu'il a prouvé son amour pour nous, qu'il en a témoigné une fois pour toutes à la croix. Et on ne va pas lire la suite en tant que telle, on ne va pas projeter la suite de Romains 8, mais à la fin, Paul y finit, en Romains 8, versets 31 à 39, il y a une louange de Paul à la fin du chapitre qui est comme émerveillé par l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Il décrit toutes sortes d'épreuves. Je vais lire quelques épreuves qu'il décrit. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. La souffrance, la perte de quelqu'un, le chômage, la maladie, telle situation. Vous pouvez mettre votre situation dedans. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Rien du tout. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était au temps du confinement, je me rappelle, j'étais en train de lire les histoires d'Élie et d'Élisée. Et puis j'étais frappé par tous les miracles que je lisais. En passant, ça peut avoir un côté trompeur. Hein. Parce que quand Jésus il dit dans l'évangile du temps d'Élie et Élisée, il y avait plein de lépreux, il y a eu un seul de guéri. Et puis il y avait plein de gens qui avaient faim, il y a eu une seule femme qui a été. Donc nous, on lit plein de miracles qui se suivent, on a l'impression que c'est comme ça tout le temps. Ça peut être trompeur, mais qu'importe. Au-delà de ça, j'étais en train de lire ça, puis ça me touchait. Je dis, ah Seigneur, j'aimerais voir des miracles comme ça. Quand il y a des miracles, merci Seigneur. Mais le Seigneur m'a parlé autrement. C'est comme si le Seigneur m'a repris avec amour, mais il m'a repris en me disant, je suis mort à la croix pour toi, ça ne te suffit pas comme miracle. Et ça m'a vraiment réorienté mon regard. La croix, c'est l'endroit où Dieu a manifesté une fois pour toutes, dans l'histoire, son amour pour nous. Tournons les regards vers là. Dans l'épreuve, tournons les regards. Et en plus, laissons le Saint-Esprit nous rappeler cela. Je vais terminer par un verset par rapport à ça. Il y a un verset qui parle de tout ça. L'amour de Dieu nous a été témoigné objectivement. Et en plus, Romains 5:5 nous dit, notre espérance, on revient à ça, ne risque pas de tourner à notre confusion. Parce que dans l'épreuve, elle peut tourner à notre confusion. C'est pas facile de traverser l'épreuve, évidemment. Notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. On va prier. Merci Père de ce que tu nous as rappelé par ta parole, l'avenir glorieux que tu nous réserves. Merci pour ton salut qui va se déployer dans tout notre être, corps et âme, et dans toute ta création. Merci de ce que l'amour dont tu nous as témoigné dans le passé, en mourant et en ressuscitant Jésus-Christ, nous assure un avenir merveilleux. Et merci aussi pour le Saint-Esprit qui vit en nous et nous témoigne dès ici-bas de ta présence. Apprends-nous à te faire confiance, Seigneur, tout au long de nos journées, même et surtout quand on ne comprend pas tes voies, et à nous rappeler que tu diriges toutes choses en vue de notre bien, Seigneur Jésus, en ton précieux nom. Amen.
Merci Christophe. Beau message. Très beau message. Même si la louange veut revenir.